Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous avons le plaisir d'avoir auprès de nous, ici dans les cieux de Radio Occitanie, rue d'Assali, Sabine Ossenac. Sabine, bonjour.
Bonjour Christian.
Merci beaucoup d'être revenue en deuxième semaine. Donc, puisque la semaine dernière, nous avons eu le plaisir, Sabine, de réaliser une émission avec vous. Une émission qui a porté essentiellement sur votre œuvre poétique, lapsus intéressant. Une œuvre poétique, donc, qui est toujours en construction, et nous espérons pour longtemps. Et également sur vos influences, en particulier les influences de la poésie allemande. Aujourd'hui, nous allons d'abord continuer, avoir un aperçu de vos écrits, de votre style en poésie, de votre voix poétique, et nous parlerons aussi donc de deuxième volet de votre personnalité, c'est-à-dire il y a le volet donc allemand, et il y a le volet occitan. Nous en avons parlé la semaine dernière, donc, de cette dualité très riche. Et aujourd'hui, donc, nous allons mettre l'accent sur le deuxième volet, c'est-à-dire le volet occitan, avec des poétesses, hein, ou des femmes poètes de notre région, donc l'Occitanie, que nous allons mettre un petit peu en exergue et qu'il ne faut pas oublier, parce que là, il y a quand même de grands génies, hein, de la poésie occitane, avec des dames dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, Sabine Ossenac, j'aimerais bien faire entendre quand même de nouveau votre voix dans le poème, dans votre voix, dans votre création.
D'accord, alors je vais lire quelques textes extraits de mon futur recueil qui paraîtra aux éditions Réclames lors de la rentrée littéraire de 2026. Donc ce recueil, en fait, revient sur les racines paysannes paternelles et j'y fais de courtes proses sur mes ancêtres en revenant jusqu'au début du 19e siècle. En alternance avec des poésies autour de lieux emblématiques, d'histoires, de personnalités ternaires ayant compté en fait. Donc c'est un entremêlement et ce poème, ces textes sont traduits en occitan.
D'accord. Donc c'est tout.
Deux villages, un situé dans la vallée du Cidobre, dans une vallée du Cidobre, à Montredon-la-Bessonnier, où mes parents avaient ensuite acquis une maison de famille. Et donc, dans toute la lignée paternelle venait de là, tandis que la lignée maternelle, de ma grand-mère paternelle, venait plutôt de Saint-Germain-des-Prés, mais pas par Saint-Germain-des-Prés, du Tarn.
D'accord.
Voilà, et donc j'entremêle les petits gens, les mincaleuses paysannes, et puis la grande histoire tarnaise, qui a été une histoire très intéressante. Au chaos de la Balme. Au chaos de la Balme, des géants songent en leur grâce granitique. La buse impassible fait le Saint-Esprit. Son cri, un rappel, des cieux immuables. Fougères et granites, alliance inextinguible des autans. Aussi d'obre, gris et vert, comme un matin du monde. Est-ce que vous voudriez le dire en occitan ?
La tartana è de spirit, son crit un rappel dels cels immutables, falgueros i granits, aliança inamorsable de las ontals, al cidobre gris i verd, com un matin del món.
Un autre poème dédié cette fois au pastel.
Ah oui.
Que j'ai appelé Isatis Tintoria. Cuves odorantes, l'indigo, bouilleur de cru, y distille ses bleus gourmands. En pays de cocagne, les jaunes en évanescence s'enfuient. Derrière ce pastel en offrande, comme un grand ciel en la vie, drapant mémoire.
Di loro a questa pastel e l'offrenda come un drapau las memorios.
Le poème suivant parle d'Albi.
Ah oui.
La ville se fait frégate. Soudain, les embruns éclaboussent briques et colombages. La ville se fait frégate. Classe la Pérouse, on croit entendre canonnade. Au pied de ta statue et des encres mémoires. Le Tarn se jette en mer des Indes. Le Manitoba célèbre Sainte-Cécile. L'Astrée, le robuste et le formidable, lève les voiles au souffle de l'OTAN.
La vie se fait frégate. Subtil les espoquen. Bricas y colondas. La vilo se fa fregato. Plaza la Perusa se crei auser canonado al ped de ton estantua y del ancoras remembres. Lutarna se escamba en mar del Singent. Lo Manitoba celebra Santa Cecilia. L'Astrea, lo robusto e lo formidable levano svela al buff del OTAN. E l'OTAN che buffa un cop cada mes.
E donc ça c'était les trois petits extraits de ce futur recueil, encore en cours de construction. Et puis j'ai aussi consacré deux textes en fait à Louisa Paulin. Celui-là ne fait pas partie du recueil.
Oui, alors on va rappeler quand même qui est Louisa Paulin. Hein.
Voilà.
Oui, donc une grande voix de la poésie occitane. Qu'est-ce que... C'est des textes qui sont extraits de quel...
Alors ça, c'est un texte qui n'est pas dans un recueil, en fait. Et Louisa Paulin, j'ai toujours trouvé qu'elle était... fabuleuse, puisqu'elle a grandi entre le français, elle a grandi en langue occitane, elle a appris le français à l'école, et
comme beaucoup,
elle a été institutrice, elle a sillonné donc le Tarn, elle est partie à Tulle en Corrèze, et puis elle est revenue ensuite dans sa région, et elle a commencé en fait à apprendre l'occitan sur le tard. En se plongeant elle-même, j'ai vraiment l'impression de me voir en miroir, puisqu'elle aussi a appris aussi l'occitan grâce à des textes de poètes.
Oui.
Et je pense qu'elle a fait une œuvre vraiment monumentale et très très intéressante, parce que elle aussi s'est intéressée aux humbles, aux petits, aux paysans, tout en développant vraiment des thématiques profondes, spirituelles, très très intéressantes.
Absolument. Et il faut vraiment, c'est un grand nom dans la poésie occitane, et c'est bien de pouvoir retrouver cette mémoire-là de Louisa Paulin. Ouais. On écoute.
Alors, donc ça c'est un texte sur Louisa Paulin. Dans le kiosque à musique, écrit Louisa Paulin. Tout là-haut dans l'alpage, le silence attend écho. La reine des Pyrénées, nonchalante, hésite entre parapente et vaporarium. Au vif des termes, fée bienfaisante, source apaisante de l'histoire fontain, bilboquet et cerceau, dame blanche et passante. Parc thermal, où curistes d'un autre temps se promènent en allée chuchotante, marronniers majestueux murmurent à l'OTAN. Dans le kiosque à musique, écrit Louisa Paulin. puisqu'en fait, Lisa a aussi passé beaucoup de temps dans les Pyrénées, en particulier à Luchon, où elle allait en villégiature. Et voilà, donc c'est ce petit texte lui rend hommage. Alors j'en ai un autre, en fait, autour de... écrit maintenant sur Louisa Paulin et Harry Almond, donc je vous le lis. Tu rêvais, Louisa. Ce texte-là fait partie donc du recueil sur le temps. Sous les arcades, réellement, crois deviner ta blouse de demoiselle de l'école. Ton nom toujours résonne sur la place. Tu rêvais, Louisa, d'une ville heureuse. La métairie derviche tourneuse de tes vers en occitan. Puisque entre Albi et Castres se dresse cette métairie, une espèce de ferme ronde qui est vraiment très très étrange dans le paysage. Du timbre, ça peut rappeler la forme des pigeons.
Ah oui.
Et voilà, c'est très très allant. D'accord. Que les deux étaient un peu en plastique. Je l'ai aussi écrit ici. Vous pensez que vous pouvez.
C'est là. Ah, pardon. Yo sur las arcados, réellement, créé divinaire, tableau des demoiselles. De las escolas. Tu nombre toujours résonne sur la place. Son avias, Luisa, d'une ville heureuse, la boria redonda derviche, tourne rio de los verses en occitan. On peut citer peut-être un livre de Luisa Paulin.
Oui, par exemple, j'ai amené aujourd'hui Sosk, des poèmes qui ont été mis en page par Rénal Roquier, Rêve en français, j'ai dit des bêtises, en fait ils ont été dit sur un CD, voilà, donc c'est oui. Un livre musical où on peut entendre aussi sur un CD, et j'avais amené aussi le texte de La Ville Rose, qu'on pourrait peut-être...
Oui, très bien, on écoute.
Je voudrais bâtir une ville heureuse. Avec des arbres et des eaux, de grands arbres serrés sur de secrets oiseaux, comme dans nos vieux livres d'images quand nous étions des enfants sages, de ces arbres gonflés d'étranges sèves et qui savaient nourrir et bercer tous nos rêves. Avec des rues comme des nids tout en rumeur, où la vie coulerait dense et généreuse pour ceux qui ont peur du bruit de leur cœur. Avec de très hauts ciels et des espaces purs charriant de l'azur, et des cargaisons de nuages au bord de lentes plages, des solitudes claires pour les silencieux, pour tous ceux qui ne savent pas replier leurs ailes. Je voudrais bâtir une ville heureuse et qui déferlerait joyeuse tout autour de la terre. L'on n'y verrait que de beaux visages, pareils et divers comme ceux des dieux, et qui semblent porteurs de messages mélodieux. Où êtes-vous, les hardis bâtisseurs, vous qui saurez vaincre sans armes, et qui naîtrait de quelques fiers rêveurs et de toutes nos larmes.
Très bon. Alors, notre petite Louisa Paulin, elle est née donc à la fin du 19e siècle, et elle meurt en 1944. Elle a une vie assez tragique, en définitive, puisque une maladie terrible, très invalidante, mise à la retraite avant l'âge, et dans une période où elle ne va pas voir.
C'est ça, voilà. À la fois dans la société, dans une paralysie progressive. Je ne sais même pas si aujourd'hui on soigne cette maladie dont j'ai oublié le nom, quelque chose qui touchait un peu tout, qui s'attaquait en fait à sa propre humanité. Et c'est vrai qu'à la fin, elle a juste
Une vie vraiment d'une grande tragédie, et qui ne ressort pas d'ailleurs dans. Il y a toujours cette force, cette spiritualité qu'elle va garder dans sa création d'une façon permanente.
Voilà. Enfants,
oui, c'est vraiment une tragédie totale. Voilà, tragédie totale, plus apollin. Vraiment, c'est bien d'avoir pensé à elle là, pour cette émission. Très bien. Et de lui rendre hommage, justement, en écrivant sur Louisa Paulin.
Voilà, et elle a fait un poème qui s'appelle « Pour ceux qui n'ont pas de nom ». Donc c'est vraiment la thématique que je travaille aussi en parlant de mes ancêtres, de tous ces gens besogneux qui ne savaient pas signer, qui ont traversé les siècles en étant au travail, en étant simplement là, présents. et Colombie.
Oui, donc, et qui ont fait le pays.
Qui ont fait le pays, en fait.
Qui ont fait le pays, oui. Oui. Oui.
Pour ceux qui n'ont pas de nom, de vous, mes ancêtres, nous ne savons ni exploit, ni gloire, ni ville, ni forteresse ne porte votre nom. Pas une église n'a conservé votre saint renom. Pas une dalle, pas une croix ne garde votre mémoire. Pas un sculpteur, œuvrant dans la pierre fidèle, ne vous a vêtu, chaussé pour le dernier jugement. Pour vous laisser dormir, enfin tranquille, un moment, nul ne vous a bâti, ni tombeau, ni chapelle. Même on vous a ôté quelquefois jusqu'au suaire, enveloppant votre sommeil dans le jardin du Saint-Cloud, et dans la mort non plus. Pêle-mêle jeté dans l'effrayant ossuaire. Vous êtes trop nombreux, pauvres mains, ombres glissant sur des ombres, engorgeant les vieux cimetières lentement abandonnés, et les champs bénis sont redevenus des maïs ou des blés, au long des siècles nourris de vos sèves sombres. Mort mille fois mort, pas un ancien trouveur n'a donné une voix, en une vengeresse clameur, au seigneur de pauvreté et de la malefaim, vous livrant corps et biens au passé oublieux. On va peut-être pas le lire en entier, ou encore. Vous êtes partout où la charrue a passé, où le blé a levé sous vos pieds pesants. Vous êtes dans les chemins, escaladant les hauteurs. Vous êtes partout où travaille et pâtit le terroir. Vous êtes près du laboureur qui, levant l'aiguillon, mène avec ses bœufs le cœur des saisons. Vous êtes dans les résurrections et dans les éclosions, dans le champ de fèves en fleurs et dans l'herbe fauchée. Mort, vous êtes vivant en nous, et dans vos empreintes, nous posons nos pieds sur le chemin de la maison. La charrette se plaint dans la même ornière, nous portons l'éternel fardeau de vos pensées. Partout en terre d'oc, votre nom sans soleil, confondu avec le nom du pré, du champ d'avoine, de la fontaine et du ruisseau, du bois et du rideau d'arbres, mêlé à ce qui vit, qui chante et qui repousse. C'est magnifique.
Oui, tout à fait.
Cette spiritualité liée à la terre qu'on retrouve aussi chez Marcel Delpastre.
Oui.
Je l'ai en occitan.
Oui, si vous ça peut-être un peu long.
Ces dernières strophes là qui sont très belles.
Mors et vius et nosus et ins vostros pisados posem las nostres per sul camin de l'ostal. La careto se plan dins lo memo rodal, portam l'eternal fais de las vostros pensados. Per tot, en terra doc, vostre non se soleio confundit ambe l'inum del prat, del sivadal, i de la font i del rio, del bosc i del randel, mescla a so que viu, que canto e que regrelo.
C'est très beau.
Très beau.
Très beau. Est-ce qu'on reste dans...
Alors, on va peut-être parler d'une exposition qui a eu lieu, je ne sais pas si elle est toujours en cours, à l'hôtel d'Occitanie, la maison d'Occitanie, à l'Oustal, à la rue Malcousinat, ici, à Toulouse, siège de la convergence occitane, de la culture occitane, une exposition sur une grande femme aussi poète, qui écrit en langue d'oc, qui est Marcel Delpastre. Voilà, si vous voulez bien nous en parler de Marcel Delpastre.
Oui, tout à fait. C'était vraiment une personnalité extraordinaire aussi. Alors, je pourrais commencer par une citation pour revenir à cette terre dont parlait Louise Apollin à l'instant. La terre ne ment pas, elle garde tout. Elle sait ce que nous oublions. Alors, au travers de cette phrase, nous entendons vraiment l'idée fondamentale de Marcel Delpastre avec la terre comme une mémoire vivante. Cette terre qui n'est pas seulement un sol, mais une archive sensible, hein, presque une conscience. L'humain passe et la terre demeure. Alors Marcel Delpastre, qui était né en 1925 et qui a vécu longtemps, puisqu'elle est décédée en 1998, demeure vraiment une figure majeure de notre littérature occitane contemporaine,
très très enracinée dans la terre limousine où elle a passé l'essentiel de sa vie, puisqu'elle était née en Corrèze, à Germont, un petit hameau de la commune de Chamberet. Et elle a grandi dans cet univers rural qui va définitivement marquer son œuvre et sa sensibilité. Alors elle a fait des études, hein, puisqu'elle est partie étudier les beaux-arts, elle est partie d'abord à Brive-la-Gaillarde, puis à Limoges. Elle est passée donc aux Beaux-Arts de Limoges, mais elle a choisi délibérément, en 1945, de revenir dans la ferme familiale, et elle a assumé ensuite pleinement cette vie paysanne. Comme Louisa Paulin, elle avait été élevée dans les deux langues, parlant elle occitan avec sa maman et français avec son papa, et elle a écrit dans les deux idiomes. Alors on raconte, l'histoire raconte qu'elle menait vraiment une vie de labeur, vraiment elle menait la ferme, et tout son quotidien, mais elle promenait toujours avec elle des petits carnets où elle notait de la poésie, des petites proses, et peu à peu, elle a commencé, on va dire, à se faire un nom, à se faire publier dans les revues. Elle s'est fait connaître un peu dans le milieu littéraire limousin. Et en même temps, en parallèle, elle s'est rendue compte de la disparition progressive des traditions séculaires et forcément aussi du parler local. Donc une citation, « J'écris comment travaille la terre, lentement, avec ce qu'on a ». Et dans cette magnifique mise en abîme, on découvre l'écriture comme un geste paysan, avec cette idée d'une création humble, patiente, incarnée, bien loin d'une posture intellectuelle parisienne abstraite. Son rapport à la terre est vraiment central et montre que la terre n'est pas un décor, elle est vivante. On pourrait presque dire que la terre de Marcel est pensante, puisque les cycles agricoles deviennent une manière de penser le temps et l'existence. Alors le travail paysan est décrit avec précision, avec une forme de gravité presque sacrée. Je pense moi souvent au tableau de Millet en lisant ses textes. L'Angélus. Et puisqu'elle raconte elle aussi, comme Francis Jammes, un autre poète de la terre, les jours simples, je cite Jammes, de l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir. Marcel Delpastre a donc commencé à collecter à cette époque des contes et des proverbes tout en écrivant en occitan, donc limousin, qui n'est pas tout à fait celui de notre Occitanie du Sud. Et en particulier, à partir de 1963, elle a écrit pour une revue qui s'appelait Le Mousy, s'attachant à préserver et à transmettre une culture qu'elle considérait être en voie de disparition. Et son œuvre mêle ainsi poésie, prose, on pourrait presque dire ethnographie et réflexion philosophique. Elle recueille donc avec soin des récits, des croyances de sa région, et elle les restitue dans une langue à la fois simple, mais profondément poétique, en développant sa propre cosmologie littéraire. Elle a par exemple dit « Nous sommes faits de la même nuit que les bêtes et les étoiles ». Parmi ses livres les plus connus figurent « Los Saumes Pagans », recueil inspiré par les cycles de la nature et les rites anciens. Et elle avait une espèce de spiritualité singulière qui interrogeait le lien entre l'humain, la terre et le sacré, qu'on retrouve vraiment chez beaucoup de peuples autochtones, hein, dans d'autres cosmologies, dans d'autres continents aussi. Elle réinvente une sorte de liturgie enracinée dans la nature. Alors longtemps, elle est restée discrète, éloignée du milieu littéraire parisien, et elle a été redécouverte tardivement, mais avec beaucoup d'intérêt, grâce justement aux calendrettes, à l'intérêt croissant pour les langues régionales, et elle a même été invitée par Bernard Pivot, non pas pour apostrophe, mais pour bouillon de culture, et c'est là qu'elle va découvrir Paris, et hélas, qu'elle va faire une chute qui lui sera fatale, puisqu'ensuite elle ne s'en est jamais vraiment relevée. Aujourd'hui, elle est considérée comme une voix essentielle de la mémoire occitane. Son œuvre contribue à faire entendre cette richesse, cette profondeur d'un monde rural en transformation. Elle a encore dit « Les anciens parlaient peu, mais chaque mot portait loin ». Je pense que la voix de Marcel Delpastre porte haut et loin les beautés de notre Occitanie et de nos racines paysannes.
Merci. C'est vraiment très intéressant de réécouter ce résumé donc de la vie de Marcel Delpastre. Il y a deux choses que je retiens. D'abord, vous avez parlé d'ethnographie. C'est exactement ça. Et il y a d'ailleurs un poète qui s'appelle Stéphane Amiot, qui va être mettre jeu là, au mois de mai qui arrive, hein, et qui écrit aussi avec ce souci un peu d'une prose qui puisse être une espèce d'explication ethnographique des choses, alors dans un français très, très contemporain, mais avec le même souci en définitive que Marcel Delplastre. Et c'est vraiment une œuvre, quand on lit l'œuvre de Marcel Delplastre, pour par exemple des gens comme moi, qui sont nés à la fin des années 40, et qui ont connu, parce que moi j'ai connu les fermes donc des années 50, puisque mes parents habitaient en Ariège et que je passais, on me mettait moi en pension dans une ferme où il y avait 17 personnes qui vivaient autour de la table là, tout le temps, hein, une ferme qui faisait de la polyculture. Et c'est une véritable civilisation qui a disparu.
C'est ça.
Et Marcel Delplastre, je crois qu'on la redécouvre tard, parce qu'on s'aperçoit tard qu'il y a une mémoire qui risque de disparaître et qu'il y a une civilisation, effectivement, une civilisation paysanne qui était très forte, très prégnante dans l'ensemble de la population française, et que cette population a disparu avec une vitesse absolument fulgurante, en définitive.
Hein.
Moi, j'ai connu, dans les années 50, quand j'étais dans une ferme qui s'appelait le Castellot, donc en Ariège, à 7 km du Mas d'Azil, sur les hauteurs, on vivait en définitive le plus près de la fin du 19e siècle que de maintenant, enfin de temps moderne. Il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas de... Voilà, tout se faisait avec les bœufs. Et c'est Marcel Delplastre, elle est l'incarnation de justement à la fois cette génération qui a connu ça et qui va connaître la violence de la guerre, mais aussi la violence de cette civilisation qui s'en va, c'est-à-dire la violence qu'il y a eu quand même dans les campagnes, hein, dont on ne parle jamais quasiment, de cette transformation brutale qui est arrivée juste après la guerre avec les Américains, etc., qui voulaient faire une économie donc de haut rendement avec les démembrements, etc., et ça a été une véritable révolution. Et cette révolution s'est effectivement traduite par une disparition de quelque chose et d'une culture. Bon, et cette culture, elle est actuellement, il faut la sauvegarder si on peut, parce que je me demande même vraiment s'il n'est pas trop tard. Et Marcel Delplastre, si on va la chercher si tard, c'est parce que je crois qu'il y a ce sentiment, qui est un peu un sentiment de culpabilité aussi, tiens, on n'a pas vu ce qui se passait, on n'a pas vu cette richesse. Et vous, Marcel Delplastre, vous incarnez cette richesse. Donc oui, ce que vous dites, ça a une valeur dans la mémoire donc paysanne de la France, c'est-à-dire des racines profondes quand même de la France absolue, quoi.
Tout à fait, et l'exposition lui rend un très bel hommage. Voilà. Il faut vraiment aller la voir.
Aller la voir, dans le monde, voilà.
Puisqu'il y a aussi des photos, et elle incarne aussi, elle est avec son tablier de paysanne. Moi, ma grand-mère était toujours avec son même tablier.
Oui, tout ça, c'est
perdu. Moi, mes grands-parents français habitaient donc un petit coin de Castres, avec quelques terres, mon grand-père avait sa petite vigne. Donc, ils n'étaient plus vraiment paysans, mais encore un peu quand même, puisqu'ils avaient aussi des terres, des ruches. J'ai vécu ça aussi dans le début des années 60. Oui. Et puis après, j'avais un frère de mon papa qui avait une ferme à Lavore, avec aussi ces grandes tablées d'ouvriers agricoles. Donc, un peu après vous, Christian, mais j'ai vécu la même chose. Et je pense que, effectivement, on doit le préserver aussi peut-être pour honorer les agriculteurs d'aujourd'hui qui sont tellement en souffrance encore, hein, et qui font ce qu'ils peuvent pour honorer le pays.
Je pense que
tout est lié en fait.
Oui. Je donne un exemple. La ferme dont je parlais, c'était une famille protestante, puisque en Ariège, dans ce canton du Mas d'Azil, la population était mitigée, il y avait moitié catholique et moitié protestant. Et les guerres de religion, d'ailleurs, ont duré jusqu'en 1875. C'est pour dire, hein, vraiment, qu'il y avait un clivage assez profond. Hein. Eh bien, là, sur cette ferme, vivaient 17 personnes. 17 personnes de la famille, hein, qui étaient très hiérarchisées, et le grand-père présidait la table. Eh bien, quand cette famille, après, dans les années 60, s'est éparpillée, puisqu'ils étaient en fermage, donc la terre a été vendue, Et les gens sont allés travailler à la ville, et souvent la ville c'était le mas d'asile, où ils ont été, pour ceux qui ont eu peu de chance, ils étaient cantonniers par exemple. Eh bien, elle a été, cette ferme, elle a été ensuite la propriété d'un couple qui faisait de la monoculture du tabac. Donc, quelle violence dans la transformation d'une polyculture qui allait partout, où ils faisaient de tout, ils vivaient en autarcie, véritablement. Ils vendaient un peu pour avoir un peu d'argent, mais il se suffisait. Et de faire maintenant de la monoculture du tabac, hein, qui n'a pas un grand avenir non plus.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc ça, Marcel Delpastre, elle incarne cette époque, cette civilisation, mais elle incarne aussi ce qu'il y avait d'extraordinairement bienveillant dans la culture de ces gens. Et ces gens avaient une véritable culture. Et elle leur redonne la parole.
Voilà.
Marcel Delpastre,
à ces gens-là,
voilà, le respect de la nature. Voilà, il connaissait ça d'une façon naturelle, pas du tout d'une façon idéologique ni quoi que ce soit. C'était naturel, c'était véritablement leur patrimoine, et ils étaient conscients de l'importance de ce patrimoine qu'ils conservaient, eux, véritablement, comme il faut, quoi.
Tout à fait.
En tout cas, merci, c'est bien d'avoir rappelé, et c'est un très beau texte là, qu'on a écouté sur Marcel Delpastre.
Il faut la lire.
Très émouvant. Oui, oui.
Il faut la lire.
Alors,
est-ce que je peux lire encore un ou deux textes de Louisa Paulin?
Bien sûr. Alors, on revient à Louisa Paulin.
On revient à Louisa Paulin, mais bon, toutes ces voix se croisent.
Oui, tout à fait. Elles sont très, 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 très voisines. Hein.
Alors, j'aime beaucoup, ça c'est un de mes textes préférés en occitan Sosque et en français Rêve. Nous rêverons, dans le soir, à des sources perdues, bourgeons d'eau et musicales fleurs de lumière, qui jamais, jamais plus, ne vous vêtiront d'amour, ô pauvre terre nue. Miracle du silence, de l'eau, de la lumière, ô beauté perdue. Quel vent vous a bu, ô vous, source perdue, qui ne pouvait plus fleurir. Nous rêverons, dans la nuit, à des sources perdues, et je poserai mon front sur tes belles mains nues, mes larmes non plus, tu ne les verras pas fleurir. Je pense que c'est encore plus beau en occitan.
Soscarem dis la nuit y desorgos perdudos. Bronze d'aigo y musicalos flores de luz que jamais, jamais plus nos vestirán d'amor o porasteros nudas. Miracle del silenci, dell'alga, della luz, oh, velocios perdudos, quinvent vos abeudos, oh vos, sorgas perdudos, que podes plus florir? Soscarem, dis la nuet, a de sorgos perdudas, e posarai mon front sus tas belas mans nudas, mas lagremos tan poc las beiras pas florir.
Magnifique en occitan.
Oui.
Et,
en français aussi.
En français aussi. Et peut-être un dernier de Louisa Paulin, symbolique aussi, la palombe. Où vas-tu? Où vas-tu, palombe? Où vas-tu avant la nuit? Où est l'arbre d'amour qui peut te protéger, le rameau frissonnant qui pourra te bercer et la feuille apeurée qui pourra te cacher? Où vas-tu, palombe? Où vas-tu avant la nuit? Le chasseur te guette et le crépuscule est triste. Pauvre, pauvre palombe. Avec un majuscule à palombe. Oui. Une majuscule, pardon.
La palombo. Un bas, palombo. Un bas. Abans la nuit, on te l'arbre d'amour que te pot apparar, le ramel enfrenit que te podra brisar. Il a fuela enrojido que te pot amagar. Un bas, palomba, un bas abans la nuit. Lo Casaire, t'espero, il utreslu est triste, poro, poro palombo. Pauvre palombe.
Et en fait, je vous avais demandé aussi, Christian, si on pourrait parler aujourd'hui de Sabine Sicot aussi.
Ah oui, alors là,
c'est
oui.
Une autre poétesse là, qui a.
On est encore dans le tragique, hyper tragique même. Hein.
Hyper tragique, mais magnifique oui, aussi, oui, puisque oui. C'était une enfant prodige en quelque sorte.
Oui.
Qui n'a vécu que 15 courtes années. Oui. En fait, c'est une fillette qui est née à Villeneuve-sur-Lot, dans une maison qui s'appelait La Solitude, et qui était très très douée pour les lettres, puisque sa marraine en écriture, en quelque sorte, a été Anna de Noailles, qui l'a un petit peu chapeautée, et donc Sabine Sicot a gagné différents prix, dont le prix du jasmin d'argent, et un prix des Jeux Floraux aussi, mais pas les Jeux Floraux toulousains, oui. Je crois que c'était des Jeux Floraux nationaux. Et hélas, elle s'est blessée, elle a eu une blessure et elle a attrapé une ostéomyélite, elle a souffert une année entière. Elle n'a pas voulu quitter donc la solitude, sa maison familiale, et elle est morte très très jeune. Et c'est vraiment terrible, moi elle me rappelle beaucoup la créatrice allemande sur laquelle je travaille, qui est morte à 30 ans d'une embolie, 15 jours après avoir donné naissance, qui est morte en disant quel dommage, et vraiment Sabine Sicot c'est pareil. Elle était extrêmement talentueuse. Alors, elle n'a pas écrit en occitan, mais elle a thématisé vraiment la nature, et puis des pensées spirituelles, quasi philosophiques, très fortes. Et je l'ai découverte vraiment par hasard. Et je trouve que c'est une voix importante de notre Occitanie.
On écoute.
Alors, extrait des poèmes de Sabine Sicot, on peut acheter ses livres et il y a aussi un site internet qui lui est dédié.
Ça, je ne connais pas, par contre.
N'oublie pas la chanson du soleil, Vassili. Elle est dans les chemins craquelés de l'été, dans la paille des meules, dans le bois sec de ton armoire et tu sais bien l'entendre. Elle est aussi dans le cri du criquet. Vassili, Vassili, parce que tu as froid ce soir, ne nie pas le soleil. Ne regarde pas si loin, Vassili, tu me fais peur. N'est-il pas assez grand, le cirque des steppes? Le ciel s'ajuste au bord. Ne laisse pas ton âme s'échapper au-delà comme un cheval sauvage. Tu vois comme je suis perdue dans l'herbe. J'ai besoin que tu me regardes, Vassili. Donc ça, c'était un poème. Oui.
Elle écrit ça, elle a quel âge?
14 ans.
14 ans, c'est que c'est d'une maturité qui est quand même époustouflante.
Oui,
hein.
on a mis en doute cette écriture,
oui.
Mais bon...
Oui, je sais. Il y a 20 ans, j'avais fait une émission sur elle, j'avais oublié, tu vois. Ah oui. Et oui, je suis très heureux de retrouver, là, parce que vous savez, c'est un souvenir que j'ai perdu, mais je me souviens, tiens, il y a 20 ans, j'ai fait
une émission sur elle. Et elle avait un visage, des photographies sur elle, oui, c'était angélique, avec une longue tresse, c'était une belle jeune fille.
Oui, par cette maturité, vraiment, qui est assez stupéfiante, hein.
J'ai un poème sur la corrida, que je trouve très très fort aussi. Corrida de muerte, du sang, je le sais trop. J'en ai l'horreur, le remords, comme vous qui chérissez les bêtes. Mais ce vertige du soleil, cette couleur des goyas qui bouge et chante, ce que jette l'éclat des éventails, des fleurs, des lèvres et des yeux sur les plazas en fête, à Séville, à Madrid, partout, où l'on entend des grelots et des castagnettes. Ce décor éclatant, où des mules aux pompons rouges se profilent. Ah, tout cela, toute la fièvre d'une ville, parce qu'un beau toréador aux sourcils noirs va passer, comme un roi de légende. Pourrais-je, ayant vu tout cela, dites, ne plus le voir? Ne plus revoir les gradins qu'on assiège, la reine fauve où la quadrille décrira cette courbe qui s'infléchit vers les tribunes, le geste, en rapide salut, d'une main brune vers l'œillet qui s'effeuille aux doigts des seigneurs. L'or et l'argent brodé, le chatoiement des soies, dans l'air cette dansante joie, où la clé du toril tombe subitement comme un défi poignant le cœur. Sans doute faudrait-il échapper à l'ensorcellement du mot magique, entre guillemets, à los toros, que chaque route, chaque balcon demain se renverra, Bayonne sous ton ciel aux couleurs espagnoles. Mais oubliez, voyez flotter les banderoles, plus haut que les frontons d'Aguilera monte cette rumeur là-bas. Pardonnez-moi, taureau noir aux beaux yeux sauvages qui s'affolent, pauvres doux vieux chevaux ruant d'effroi, pardonnez-moi, devant l'art souple qui se joue de la mort et la brave. et le cadre où se noue le drame préparé dans les ganaderies à Slaba, au pied vert des montagnes. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais comment l'amour de ces choses me gagne. Pardonnez-moi de ne plus voir que la beauté du poème barbare et d'oublier l'épée sous la cape écarlate. Il faudrait moins d'été, moins de soleil peut-être et de roses coupées, moins d'éventails ouverts et de gens qui se hâtent pour dire, le pensant, je ne veux plus vous voir, ô corrida des muertes, corrida aux couleurs des romantiques soirs dont la moulette assaigne entre des rochers noirs sur les arènes de la mer luisante et verte. Écrit à Biarritz en veille
de pourpre. Voilà, solidaire, voilà. Oui, fabuleux. Fabuleux, il y a tout là. Il y a tout, absolument tout. Pour ceux qui ont vu aussi les corridas dans les années 60, hein, c'est exactement ça. Et puis ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une beauté. Cette beauté, en définitive, elle finit par éliminer la tragédie de la corrida. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus la souffrance du taureau, tellement on est pris par cette beauté de la scène, quoi, de tout. Et en même temps, il y a, je trouve qu'il y a dans les détails, on voit vraiment se dérouler et on voit l'enchantement qu'elle ressent. C'est un enchantement esthétique, et c'est d'ailleurs la principale, comment dirais-je, excuse entre guillemets, ou la justification, si on peut dire comme ça, de la corrida. C'est ce côté esthétique,
oui, tout à fait,
qui est étincelant. Oui. Bon, il y a toute cette arrogance espagnole, oui. là-dedans.
Ce poème a inspiré une nouvelle.
Ah, il est très beau, ce poème. Très, très beau. Je ne le connaissais pas.
Oui. Et donc, très beau. Vous pourrez lire ce poème. Une nouvelle que j'ai écrite à l'occasion de ma participation au prix Hemingway. Je le fais chaque année, je ne l'ai jamais gagné encore. Et je l'ai appelé Dans l'air, cette dansante joie, donc une réécriture de ce texte en imaginant une histoire d'amour tragique, évidemment, entre Sabine Tico et un toréador. Voilà, puis après j'ai choisi un petit texte plus calme, mais très beau, dédié au livre, à l'objet livre, L'heure du platane. Sentez-vous cette odeur fauve et rousse de beau cuir neuf, chauffé par l'automne qui flambe? Tous les cuirs du levant sont là, venus ensemble de souks lointains saturés d'ambre et de santal, des huiles et des gommes d'or les éclaboussent. En de jaunes parfums d'essences et de gousses, tous les cuirs précieux d'un faste oriental, cuir gaufré et gravé, pointillés de métal, peints et damasquinés, sont là. Ceux de Cordoue s'allongent en panneaux où la lumière joue comme dans l'escalier d'un palacio ducal. Ceux de Russie ont des reflets pourpres ardentes, ceux de Venise, la douceur d'épais velours, et ceux des Flandres, au blond rare, au brun sourd, semblent chez le bourgmestre attendre une kermesse. Quelles mains ont offert à ces livres de messe la reliure somptueuse qui m'enchante, et ce manteau pareil à la robe de Dante, qui le tailla pour des poètes ignorés, beau livre d'autrefois, je vous aime, doré, sur un fond de soleil, ainsi que des icônes, et ma bibliothèque est un gala d'automne ce soir, entre les bras d'un arbre mitré d'or. La légende se brode à même le décor. Mes livres, des très vieux aux très jeunes, s'étagent de branche en branche à la façon d'oiseaux pensifs, et par-dessus la mosaïque des massifs prennent la gamme fauve et rousse du feuillage. Car ils sont habillés de feuilles, en ce temps où les platanes roux et fauves se dépouillent. La Vierge, dans l'allée, a filé sa quenouille afin que chaque page ait un signé flottant. Vous, qui lisez, le front penché dans une chambre, ne sentez-vous pas qu'au seuil froid de novembre, tout ce maroquin neuf et ses parchemins d'or sont faits pour que ce soir, on traduise dehors, uniquement, les strophes du platane? Automne, guilloché de soleil, broché d'insectes jaunes, plein de miel et de grains, et de cette odeur forte que promène le vent du sud de porte en porte, automne, qui donc pourrait croire aux feuilles mortes, croire ce soir à la tristesse de la mort?
Incroyable.
Magnifique, hein?
Oui. Écrire ça à 14 ans.
Voilà, je trouve aussi que c'est très fort. Qu'elle était vraiment surdouée. Et je pense qu'on a intérêt à la redécouvrir, parce qu'on ne pense pas qu'elle soit très connue en dehors de l'Occitanie. Hein.
Oui. En tout cas, c'est très bien d'avoir fait ce rappel. Hein, on va pouvoir se replonger sur cette œuvre donc fulgurante, hein, une œuvre fulgurante, mais bon. En tout cas, j'avais oublié cette. il y a 20 ans, je me souviens d'avoir découvert ça comme, avec comme un coup de massue, quoi. Ça me paraissait même assez exceptionnel, presque véritablement incroyable. Mais oui, c'est très bien d'avoir ravivé cette mémoire-là. Et de nous avoir rappelé que donc, nous comptons parmi les femmes de grands génies, hein, de grands génies qui sont et très proches en définitive, parce que c'est une poésie qui est pas difficile, qui est très belle, très, très profonde et en même temps très accessible.
Tout à fait.
Très accessible, ce qui est très difficile, de réunir toutes ces qualités.
Tout à fait. Et non, je pense que ce sont trois femmes vraiment qui sont importantes pour notre cosmologie poétique d'Occitanie. Et j'avais envie, Christian, vous me le permettez, de finir sur mes deux grand-mères.
Ah oui, très bien.
Ma grand-mère tarnaise et mon arrière-grand-mère allemande. Puisque, donc cette petite prose fait partie du livre sur le Tarn. Tekala, mon adoubé citoyenne. Ta tresse en couronne, ton autre colonne à la lavande, ta pommade rosa, ta poupée. Seule rescapée de la grande inondation de 1930, Germaine, Marie-Louise et Mado, trois sœurs au cœur de Castres, quand le siècle était beau, robes longues et dentelles, organdi et chapeaux illuminent vos photos sépia. Tu étais la cadette et la plus volontaire, je crois. Tu m'as appris les prières et la bonté. Tu avais fait consacrer ma médaille de baptême à l'Immaculée Conception de Blois, et c'est à toi que je dois ma foi de charbonnière. Luis Mariano, ton idole, nos chasses aux escargots, tous les Alice et les comtesses de Ségur que tu m'offrais, et un jour, les rires de tes amis, dans le bus vers Lourdes. À la mort d'Albert, tu as coupé ta tresse et commencé à faire des pèlerinages. Tes cartes postales emplies de fautes et de tendresse, messagères de ta vie simple et droite. Je garde au cœur la saveur caramélisée de tes tartes aux pommes et tes immenses paniers d'osier emplis d'oreillettes, et parfois d'un gâteau de ménage débordant de fruits confits. Marie-Louise, tes calas m'ont adoubée citoyenne. Chaque soir, je m'endors, lovée dans ton couvre-lit au crochet, ton missel repose dans ma table de nuit. Marie-Louise Navarre, sans profession, elle est née le 14 juin 1908 à Castres, chemin de Biceus, et est décédée le 22 décembre 1887, dans la même localité à l'âge de 79 ans. Elle est la fille légitime de Marius, Baptiste Navarre, âgé de 36 ans, et de Mélanie Land, âgée de 22 ans. Albert et Marie-Louise se sont mariés le 10 février 1931 à Castres. Leur union a duré 40 ans et 11 mois, puisque dans mon recueil, j'utilise aussi des vrais extraits d'actes d'état civil.
D'accord, très bien.
Et je crois qu'on a juste le temps pour lire un poème dédié à mon arrière-grand-mère allemande, pour boucler la boucle. Embrun gris de la Nordsee, vite que ton prénom, presque sans visage, tes enfants si nombreux retrouvés sur un arbre sépia, Heinrich, Walter, Werner, Willy, Heinz, Erika, Gertrud et Anneliese, ma grand-mère. Vite que tes savoirs gris nés aux confins de l'Europe et des mers, presque insulaires. Embrun gris de la Nordsee, marée d'immense, maison bigarrée, odeur de nacelles et de sel. Main calleuse des hommes, chalutier et morue, pâquerette timide balbutiant le printemps, souvent tu as eu faim. Vite que te rêver enfant émerveillé de soleil, endimanché devant briques sombres de l'église dans cette Allemagne encore vierge des enfers. Imaginez t'embrasser devant vague tendre. Ne pas t'oublier. Et je l'ai aussi en occitan.
Oui. Bon. Oui. Je voulais dire un mot là-dessus. Il dit que les poèmes doivent être des ponts entre les hommes. Et c'est exactement ça. En écoutant ces deux grand-mères, eh bien, le poème de Sabine Ossenach, les poèmes de Sabine Ossenach ont été le pont. Hein. Les poèmes sont des ponts entre les hommes. Et je crois que vous en êtes la bonne illustration de ça. Par le poème. Savoir construire ces ponts. Et le poète est ça. C'est un constructeur de ponts. Si c'est un constructeur de ponts, on peut dire qu'il aura réussi son œuvre.
Je crois. Et on revient à Paul Celan avec les méridiens qui font le tour de la Terre.
Oui. On va peut-être plutôt finir, j'aimerais finir sur un texte de Sabine Ossenach.
D'accord.
Voilà, on va finir là-dessus quand même.
Nous étions les voleurs de lumière. Te souviens-tu des hippomées, leurs ailes bleues de mandoline, la source explosée en cresson, eau matricielle de nos étés. Détruit-elle, leurs nageoires argentées louvoyaient en chantant. Sous la tente verte du pommier, nourrir, toujours. Grillons essoufflés déchiraient le soir. Les phalènes caressaient le taffetas des nuits. Au matin glorieux, la buse criait victoire. Nous étions les voleurs de lumière.
Très beau. Ça fait penser un peu à les voleurs de feu de Rimbaud. Hein.
Voilà.
Oui. Et c'est Octavio Paz, maintenant la mémoire me revient, qui dit que les poètes ne sont des poètes que s'ils construisent des ponts entre les hommes, et que les poèmes doivent être ces ponts, la construction de ces ponts. Voilà, Octavio Paz.
Oui, parce que c'est vrai qu'on écrit de la poésie peut-être en solitaire, mais si on ne l'écrit que pour soi...
Ah oui, non seulement ça n'a pas de sens,
bon, voilà,
mais c'est scandaleux, quoi.
Voilà.
Parce que bon, voilà, le poème doit s'en servir à ça.
Hein,
à toucher les autres, bien sûr. Et justement, c'est par l'intime, et c'est plus le poème va dans l'intime, souvent, que plus il est universel. Parce
c'est
que chacun, voilà, chacun va se reconnaître, chacun a son intime, et va trouver dans l'intime de l'autre son propre intime, même s'il ne lui ressemble pas, je veux dire... Mais il va y avoir une couleur quand même qui va lui rappeler que lui aussi, il a été dans cette disposition, ou qu'il peut comprendre la disposition, le sentiment qu'éprouve le poète quand il parle.
Et vous savez, Christian, ce que j'ai entendu il y a quelques jours à France Info, c'est qu'on lit maintenant de la poésie aux grands prématurés. Il y a une association à Paris qui va lire de la poésie, et on s'est rendu compte...
Oui.
Que pendant qu'on lit un poème à un grand prématuré, son rythme cardiaque, on le voit sur les moniteurs, s'apaise, et les ondes cérébrales aussi.
Oui.
Donc c'est juste fabuleux, en fait.
Oui,
il y a apaisement,
oui.
Il y a un lien qui se crée, aussi important que quand on fait passer du Mozart,
quoi.
J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique.
Oui, d'autant plus que là, c'est le son, parce que... Oui.
Le son, on ne sait pas. En tout
cas,
il y a quelque chose de très beau et très fort.
Oui. Moi, je fais ça avec les chats.
C'est bien aussi.
Et bon, les chats seront attirés par... pour ça.
J'essaierai pour calmer le mien.
Oui. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Donc, on va rappeler quand même, on a le temps ou pas on a 3 minutes, 2 minutes, 2 minutes. On va finir sur un poème. Il y en a un de 2 minutes.
Sûr,
allez.
Bien sûr, j'en ai plusieurs de 2 minutes. On repart vers l'Allemagne.
Oui.
Caspar David Friedrich. Sente sombre des sapins. Racines, humus et au loin la lumière. Insularité des bois. Arbres enfantés en Baltique. Se faire guetteur à la balustre des vertiges. Voyageur au-dessus de la mer de nuages. Au Königstuhl, chaque pas est ressac. Entrer en peinture au gré des nacres et des lactescences, des falaises de craie. Une mouette se fond dans la blancheur, à Rügen s'illuminer d'intense. Donc c'était dédié au peintre Caspar David Friedrich, qui a donc peint beaucoup à l'île de Rügen, hein, avec ce tableau très connu des falaises de craie. Et on peut finir, si vous voulez, au fin fond des bayous de Louisiane, dédié à Zachary Richard, mon ami, le grand chantre de la francophonie. Là-bas, au fin fond des bayous de Louisiane, s'entrelace moiteur, comme on aime une femme. L'eau dormante frissonne, caressée par le temps, et tu chantes les dormances de l'oiseau voyageur, ta voix, étonnamment douce, comme un ricochet dans les verts éclats des mousses émeraudes. Là-bas, au fin fond des bayous de Louisiane, les eaux folles des méandres épousent galions du vent et rumeurs océanes. Les déferlantes ensauvagent l'espace, le lit défait du fleuve comme bataille amoureuse, et au milieu coule ta voix rocailleuse qui cogne et canonne contre ouragans et marées noires, récifs de beauté et d'espérance. Là, ici, bien loin des bayous de Louisiane, Je n'ai qu'à glisser le cercle argenté dans le lecteur d'émotions pour revoir tes mains, parcourant l'accordéon qui danse, tes yeux dardant un public en transe, ton sourire comme un arc-en-ciel, en épousaille d'infini dans l'épure des temps. Et ta voix me berce, archée, promenant ta fougue ou la tristesse des violonneux en goguette, resplendissante révolte des marrons ou tendre onyx de mille hirondelles. Alors, émerveillée comme une enfant, qui verrait les étoiles, je marche à tes côtés, sous vos grands arbres ployants vers notre terre, vers notre mère, la terre, et te souris.
Merci, Sabine Ossenac. Vous retrouverez tout ça donc sur lespoètes.site. Et je pourrai ainsi avoir toutes les références des auteurs dont nous avons parlé.
Merci beaucoup, Christian, de m'avoir reçu. C'était
un grand plaisir.
Très agréable.
Et à la prochaine fois, Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie. Nous vous disons la semaine prochaine à 10h.
Merci.